RFI, 22h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Pagès.
Bonsoir à toutes et à tous. À Nantes, dans l'ouest de la France, une lycéenne a été tuée ce jeudi et trois autres élèves blessés, dont une grièvement à coups de couteau. L'agresseur, un autre lycéen, a été arrêté. Le Premier ministre François Bayrou demande des propositions concrètes autour des violences commises par des mineurs avec des armes blanches. Vladimir arrête une rare condamnation de Donald Trump. Le président américain a apostrophé sur son réseau social son homologue russe Vladimir Poutine. Après l'attaque qui a visé Kiev la nuit dernière, la plus sévère depuis le début de l'année, elle a fait au moins 10 morts et 70 blessés. Fin de la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. À Madagascar, il a annoncé la création d'une commission mixte d'historiens qui vont travailler sur la très violente répression de l'insurrection de 1947 par l'armée française. Une répression qui avait fait des dizaines de milliers de morts. François Bayrou demande une intensification des contrôles mis en place aux abords et au sein des établissements scolaires et, sous 4 semaines, des propositions concrètes autour des violences commises par des mineurs avec des armes blanches. Ce jeudi, à Nantes, dans l'ouest de la France, une lycéenne a été tuée et 3 autres blessées à coups de couteau par un élève qui a été maîtrisé par des enseignants, puis arrêté par les polices. La police, ça s'est passé vers 12h30 dans le collège lycée privé Notre-Dame de Toute-Aide. L'établissement a été évacué, un périmètre de sécurité a été mis en place, surveillé par la police et les militaires de Vigipirate. Le suspect a été placé en garde à vue et l'enquête a démarré. Écoutez Christophe Miette, le secrétaire général du SCI. CFDT, le syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
L'enquête en cours qui a débuté avec des prélèvements ont été faits. On sait également que des perquisitions vont avoir lieu à son domicile. Son entourage va être auditionné également. L'exploitation de tous les réseaux numériques sur lesquels il a pu se rendre va être faite. Une cyber-enquête va être faite sur son téléphone, ordinateur et les différents réseaux qu'il a pu utiliser. Il va avoir aussi, et ça a débuté avec les lycéens et le personnel d'établissement qui ont été confinés, une première vague d'enquête et d'enquêteurs ont été réalisés au niveau de l'établissement pour essayer de récolter les premiers éléments d'enquête de voisinage, comme on appelle, savoir s'il s'était confié sur ce parcours criminel, savoir s'il s'était confié sur ses intentions et la manière de faire, ou savoir s'il avait des griefs avec d'autres personnes. Donc c'est tout ça qui est en train d'être remonté, qui a débuté.
Christophe Miette du SCSI CFDT, joint par Sylvie Coffi. Ce soir, les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, Bruno Retailleau et Elisabeth Borne, sont sur place à Nantes. Bruno Retailleau affirme qu'il ne s'agit pas d'un fait divers, mais d'un fait de société.
RFI.
145 drones, 70 missiles, dont 11 balistiques. L'attaque lancée par la Russie contre Kiev la nuit dernière est la plus importante à avoir frappé la capitale ukrainienne cette année. Au moins 10 personnes sont mortes et 70 ont été blessées. Volodymyr Zelensky était à Pretoria lorsque l'attaque a été lancée. Le président ukrainien a écourté sa visite en Afrique du Sud pour rentrer à Kiev. Une attaque qui a suscité une rare condamnation de Donald Trump sur son réseau social. À Washington, la correspondance de Guillaume Nodin.
Vladimir arrête, dit le président américain sur son réseau social personnel. Donald Trump écrit qu'il n'est pas content des frappes russes sur la capitale ukrainienne. Il explique qu'elles ne sont pas nécessaires et qu'elles interviennent à un mauvais moment. Et il appelle à faire la paix. 3 lignes, contrairement à sa diatribe de la veille pour accuser le président ukrainien de se vanter à la une du Wall Street Journal du fait qu'il ne reconnaîtra pas légalement l'occupation de la Crimée. Des propos incendiaires qui rendent difficile le règlement de la guerre, dit Donald Trump. Hier, dans le bureau ovale, il disait avoir trouvé un accord avec la Russie, mais pas encore avec l'Ukraine, soulignant que les rapports sont pour lui plus faciles avec Vladimir Poutine qu'avec Volodymyr Zelensky. Une fois de plus, comme il l'avait fait lors de l'humiliation publique du président ukrainien dans le bureau ovale, il souligne que celui-ci n'a pas les cartes en main, autrement dit pas vraiment le choix. Donald Trump se défend de prendre le parti de la Russie, mais plutôt celui des soldats, il ne mentionne pas les civils, qui meurent sur le terrain. Il évalue ce nombre à 5000 par semaine, soit le double de ses précédentes estimations. C'est pour cela qu'il y a urgence, selon lui, qui avait promis de régler la question en 24 heures. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Le Premier ministre indien Narendra Modi promet lui de traquer jusqu'au bout de la terre les auteurs de l'attentat qui a fait 26 morts au Cachemire indien. Et finalement, il n'est pas allé bien loin, puisque New Delhi attribue l'attaque à des islamistes soutenus par le Pakistan. Elle a donc infligé toute une série de sanctions à son voisin, suspension d'un traité sur le partage des eaux, fermeture du principal poste frontière terrestre entre les deux pays, et ordre a été donné à tous les citoyens pakistanais de quitter l'Inde d'ici la fin du mois. Le Pakistan nie toute responsabilité dans l'attaque et riposte, entre autres, en fermant sa frontière et en indiquant que toute tentative par l'Inde de réduire son approvisionnement en eau serait considérée comme un acte de guerre. Fin de la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. Aujourd'hui à Madagascar, le président français a annoncé la création d'une commission mixte franco-malgache d'historiens qui vont travailler sur la très violente répression de l'insurrection de 1947 par l'armée française. Madagascar est une ancienne colonie française. Des dizaines de milliers de personnes avaient alors été tuées. Le président français a expliqué vouloir créer les conditions du pardon de la colonisation. RFI, 23h05, à Jérusalem. Comme tous les ans, Israël commémore la Shoah. Le pays s'est figé ce matin au souvenir des 6 millions de juifs tués par les nazis en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Un moment d'émotion intense dans le pays qui traverse l'une des périodes les plus tendues de son histoire. Notre correspondante Amira Swilem nous raconte ce qu'elle a vu ce matin à Jérusalem.
Quelques instants avant 10h, une gravité s'empare des rues de Jérusalem. Puis soudain, les sirènes retentissent dans tout le pays. Tous les passants se fichent sur place. Barbe longue, kippa sur la tête et sourire malgré tout, Israël Campbell, comédien et guide au mémorial de la Shoah de Yad Vashem, semble absorbé par ses pensées.
C'est un moment puissant pour l'État d'Israël. Vous savez, à Yad Vashem, on dit que l'État d'Israël existe en dépit de l'Holocauste et non pas du fait de l'Holocauste. Malgré le fait que le tiers de la population juive mondiale et les deux tiers des juifs d'Europe aient été tués. Malgré cela, on a été en mesure de créer un État et ça, c'est beau.
C'est quoi ce nombre-là sur votre veste ?
566, c'est le nombre de jours passés en enfer par les otages.
Des otages israéliens dans tous les esprits ici. Sur un banc, deux jeunes femmes discutent.
Je m'appelle Shaked, j'ai 26 ans. On a des frères et des sœurs, 59 personnes qui subissent un holocauste tous les jours à Gaza et le monde ferme les yeux. C'est ce qui me relie à ce jour et j'espère que le monde va se réveiller et ne pas permettre à cet holocauste de perdurer.
Plusieurs ONG comme Amnesty International accusent Israël de commettre à son tour un génocide à Gaza. Les Palestiniens d'Israël, croisés ce matin, ont préféré ne pas s'exprimer sur le sens de cette journée du souvenir. Amira Swilem, Jérusalem, RFI.
L'armée israélienne a appelé cet après-midi les habitants de Beit Hanoun et de Sheikh Zayed, dans le nord de la bande de Gaza, à évacuer en prévision de frappes. Et l'armée affirme que le Hamas porte l'entière responsabilité du déplacement et de la souffrance des civils. Ce matin, au moins 36 personnes ont été tuées dans de nouveaux bombardements israéliens. Quelle que soit l'évolution de la situation internationale, les efforts de la Chine pour lutter contre le changement climatique ne ralentiront pas. C'est ce qu'a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d'un sommet virtuel sur le climat organisé à quelques mois de la COP30 par le Brésil, qui va d'ailleurs l'accueillir. Xi Jinping a réaffirmé l'engagement de la Chine à faire progresser l'action climatique, s'opposant, sans le dire, à la position du président américain Donald Trump. À Pékin, Cléa Broderst.
Sans nommer directement les États-Unis, le président chinois a dénoncé le protectionnisme et l'unilatéralisme de certains grands pays qu'il accuse de fragiliser l'ordre international. Il a mis en avant les avancées chinoises dans les énergies renouvelables, affirmant que son pays avait construit les plus grands systèmes au monde, ainsi qu'une chaîne industrielle complète dédiée aux nouvelles énergies. Une manière, pour beaucoup, de critiquer implicitement le président américain Donald Trump, qui a quitté l'accord de Paris et qui soutient les énergies fossiles. Cette réunion, convoquée par le secrétaire général de l'ONU, a réuni des dirigeants du Brésil, de l'Union européenne et d'autres régions du globe. Les États-Unis, eux, n'étaient pas invités, une absence qui illustre le fossé croissant entre Pékin et Washington sur les questions climatiques. Et la présence de la Chine était essentielle. Il est inhabituel pour Xi Jinping de prendre part à de telles réunions, mais pour lui, ce sommet a aussi été l'occasion de se positionner en leader mondial, stable, responsable et engagé dans la lutte contre le changement climatique face à un monde secoué par les tensions commerciales et politiques, mais aussi se démarquer comme un contrepoids à l'imprévisibilité de Trump. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
La Grèce renforce ses capacités de lutte contre les incendies avant la saison estivale. Cette année, l'hiver a été sec et à la mi-mars, les températures exceptionnellement élevées. Nous avons en 2025 le plus grand nombre d'hommes et de femmes dans les services d'incendie, s'est félicité le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Plus de 18 000 pompiers seront mobilisés. Le pays subit de plein fouet l'impact du changement climatique. L'an dernier, le plus important de la série d'incendies qui a frappé le pays est allé jusqu'aux banlieues d'Athènes avant d'être maîtrisé. RFI 22h10 à Paris.